Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble.
Beef, calf, droit, gauche, droit. Sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, nature au parti. Lymphe de Rosemont, Arthur au Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxer et podcast. Laurent, c'est pour parler, bienvenue sur le podcast.
And the new
en direct d'une cuisine de Rosemont, Montréal, dans ce magnifique 2,5 décoré comme un musée de la boxe. Un jour, je pense que je vais ouvrir la porte en avant. Je vais marquer musée de boxe. Je vais inviter des gens. Encore la semaine passée, j'ai acheté j'étais allé dans une convention de collectionneurs. Et là, j'ai fait comme l'erreur de... Il y avait un monsieur avec un cartable avec des images plastifiées, autographiées, puis plastifiées après. Donc, ça fait un bel outil de collection. Puis, il y avait Gaétan Hart avec sa ceinture de champion canadien signée. Puis là, moi, je sais, je fais pas attention. Je tourne les pages, je fais « Mon Dieu, Gaétan Hart, wow! » Le gars, il entend ça. Il dit « Ah oui, 25 $! » Tu sais, probablement que si j'avais fait... C'est qui, lui, je le connais pas. Ça aurait été 8 $. T'sais. Je me suis piégé moi-même en étant un peu trop enthousiaste. Ne jamais être enthousiaste lors d'un début de négociation. Donc, c'était ça, une collection. J'ai acheté une photo de Kevin Bizier autographiée. Le gars, il m'a demandé 20 $. T'sais, j'aurais pu lever le ton. Mais je sais pas, je viens de recevoir. Moi, quand je viens de recevoir ma paye, je suis assez lousse. Si jamais vous voulez me vendre quelque chose, vendez-moi-le quand je viens de recevoir ma paye. C'est là que j'oublie de négocier. Fait que j'ai acheté une photo de Kevin Bizier, c'est ça. J'ai une tonne de photos ici plastifiées. Souvent, les conventions, ils faisaient venir des athlètes, ils signaient des photos. Mais c'est des grandes photos, 8,5 par 11. Donc, j'ai ça. Je voulais vous en parler. J'ai beaucoup de revues des années 80 sur la boxe. En tout cas, beau petit musée. Là. Ce que j'espère, c'est pour ça que là, on est en train de bâtir un peu la relève de Boxing Town avec Vincent Tremblay, 29 ans. Noé Cloutier, qui a 21 ou 22. Là, j'ai trouvé un petit jeune sur Twitter qui connaissait sa boxe québécoise sur le bout des doigts, un dénommé William. Là, lui aussi, je l'ai signé à long terme, un contrat de 4 ans chez Boxing Town. Mon idée, c'est, je pense qu'en vieillissant, il y a deux choses. Il y a, tu sais, préparer la mort certaine. Quand tu es rendu à 40 ans, je veux dire, un jour, la grande faucheuse va venir te chercher plus tôt que tard. Puis il y a aussi le concept de préparer sa relève. Tu sais, moi, j'ai acheté des petits bonhommes de boxe. Tu sais, j'ai plein d'affaires qu'un jour, je veux pas que je meure puis que ça se ramasse à la curatelle publique, brûlé à l'incinérateur sur des carrières. Donc, j'essaie de m'assurer que, tu sais, comme exemple, Noé, on est cherché toutes ces boîtes-là de livres puis tout ça. Lui, il va essayer de trouver un autre jeune de 20 ans et... toutes les centaines de milliers de dollars que j'ai investis sur des items de collection vont survivre. J'ai les gants de Jean-Pascal contre Luciane Bouté. Tout ça, là, ça peut pas partir en même temps que moi. Là. Il faut qu'un musée s'y intéresse. Conseil série télévision. Alors, je vous conseille, premièrement, de ne pas accepter la hausse de prix de Netflix avant le 14 mars prochain. Vous vous déconnectez de Netflix et vous gardez le 17-18 $ dans vos poches et vous vous abonnez à tout.tv pour écouter la série « C'est pour ça que je t'aime ». 4 amis dans la région de Sainte-Foy qui, malgré eux, se sont découverts un talent certain pour le crime organisé et ont éliminé un groupe de motards une nuit un peu malgré eux, parce qu'ils étaient ciblés, puis finalement, ils sont devenus comme des criminels d'exception. Et c'est plein, c'est drôle, ça blasphème, ça fume, ça consomme de la cocaïne, ça se marie, ça se trompe, il y a de la corruption. Je vous le dis, c'est bon en joie le vert, ça a de quoi devenir une série légendaire de la télé québécoise. Maintenant, je trouve pas qu'on est dans un temps très agréable à vivre. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça donne des images qui donnent froid dans le dos. Ça fait réfléchir au fait qu'on est bien au Québec, mais qu'à pas si loin que ça, en vol d'avion, il y a de la vraie misère. Il y a des civils qui se font tuer. Même ça me fait penser qu'il y a des pays où il y a de la pauvreté dans le monde. Puis là, des fois, veut pas, on reste dans notre confort, nous, comme Québécois, Canadiens, Américains, parce qu'il y a beaucoup d'Américains à l'écoute. Mais on oublie que pas si loin que ça, des gens qui souffrent, puis on essaie d'éviter ça. Comme dirait ma bonne amie Martine, on fait de la fuite pour rester heureux. Mais tout ça existe. Puis des fois... Des fois, je me sens mal d'avoir ce confort-là. Puis d'autres fois, je me plains. Comme quand je vois le gaz qui monte à 2$, mais je sais que tous les biens de consommation vont être augmentés. On va tomber dans une super inflation. Maintenant, il n'y a plus se loger. Il n'y a plus vraiment de logement à prix raisonnable. Les maisons, tu sais, en face de chez nous, la maison s'est vendue 1 million. Puis là, des fois, les gens ils me disent, achète la maison à tes parents. Ben oui, tu sais, j'avais oublié que avec mon salaire de fonctionnaire à 60 000 par année, je savais pas que je pouvais acheter une maison dans mes temps libres. Et là, je me plains pas. Je dis juste que la réalité, c'est que je peux pas acheter la même maison que mes parents ont acheté il y a 25 ans. C'est juste ça. Ma génération ne peut pas acheter la maison familiale de la génération d'avant. Et c'est peut-être mon problème. J'aurais dû étudier, aller à l'école et gagner plus d'argent. J'ai été lâche un peu, mais c'est l'histoire de ma vie. Je fais tout croche, sauf mon podcast. Et c'est aujourd'hui le podcast numéro 117. Bien sûr, on va parler, parce que là, j'ai fini de me plaindre. Là. L'introduction... J'ai le droit de faire ce que je veux, je vous ai déjà averti. Après ça, c'est que de la boxe. Il y a eu un gala de boxe au Casino de Montréal et aujourd'hui, je suis un peu morose. Je suis pas là pour me faire des amis. Je vais vous dire exactement ce que je pense des boxeurs et du gala qu'il y a eu au Casino de Montréal. Et ce ne sera pas de la tarte, ça va brasser. Je vais vous parler de la carte des annonces du groupe Yvon Michel aussi. Yann Pellerin s'est servi de Boxing Town de Québec pour annoncer sa première soirée et ça promet. On va aussi parler de Jean-Pascal a fait parler de lui. Il y en a eu des nouvelles cette semaine, vous allez voir. On va avoir de quoi se mettre sous la dent. Oui, ici, j'avais un message de Martine Vallière-Bisson qui vous remercie tous les gens à la maison qui sont à l'écoute. Elle sent votre support et elle vous aime tous. Le problème, c'est que mon téléphone, je sais pas, il n'est plus capable de faire jouer les messages audio que je reçois. Donc, c'est ça. Martine vous remercie et à cause de mon téléphone qui est en mauvais état, je peux pas vous... le faire jouer. Eye of the Tiger retournait devant public jeudi passé. Et là, tu sais, tout le monde a tendance à être positif, puis tout le monde est beau, tout le monde est bon, tout le monde va devenir champion du monde. Vous la voulez, la contre-offre, vous voulez l'envers de la médaille, préparez-vous, ça va brasser. Ça va brasser. Je vais juste dire ce que je pense vraiment parce que je sais pas, je suis pas de bonne humeur, puis je me dis, au moins, si on peut accuser quelqu'un d'être honnête, puis si je me trompe, mais vous reviendrez dans 4 ans, puis vous direz, Poulain, t'avais tort, sans dessin, je vais vivre avec. Donc, Eye of the Tiger présentait une carte de boxe, et là, il y a eu des belles choses, il y a eu des très belles choses dans cette carte-là. Si j'avais à nommer le héros de la soirée, OK? Le héros de la soirée. Non. On va y aller avec le héros de la soirée, Jean-François Gardy. Lui, j'avais parlé au matchmaker, puis j'avais dit, franchement, monsieur matchmaker, vous y allez fort avec un adversaire de 7-1 qui a gagné ses 7 derniers combats, qui a fait face à une opposition quand même correcte dans certains de ces combats-là. Je pense qu'il avait battu un gars de 26-10. Et Gardy, c'est son deuxième combat professionnel. Il me dit, Gardy, il me répond ça, il me dit, Gardy a un certain âge, il ne veut pas perdre son temps. Donc, j'ai respecté ses volontés. J'ai proposé un adversaire qui faisait du sens dans ce qu'il nous demandait puis ce qu'il racontait. Puis, il a dit oui. Mais Gardy, grande performance. Il a arrêté son adversaire au 4e. 2 KO, 2 combats. Je crois pas que Eye of the Tiger va le signer, mais je crois qu'ils vont poursuivre l'étude puis ils vont continuer à le ramener. Tu sais, fidéliser. Pas besoin de toujours signer tout le monde. Tu peux fidéliser quelqu'un. Puis la clientèle finit par l'apprécier. Donc, Jean-Gardy François, performance de la soirée. Non, surprise de la soirée. Moi, je voyais un combat serré. J'étais même un peu inquiet. Puis finalement, il a vraiment montré ce qu'il y avait dans le ventre. Puis d'aller chercher la victoire. Bravo. Steve Claguette, performance de la soirée. Claguette, c'est toujours la même chose. Une machine de cardio. L'emporte contre Sébastien Ezequiel Aguirre. Et je parlais cette semaine à Michael l'unique Gadebois. J'enquêtais sur... Tabac, j'ai comme bégayé en ondes. J'enquêtais sur Hamza Kabaz qui a affronté Raphaël Carmona-Mendez. Puis il me racontait à quel point un gars comme Claguette dans un gymnase rend tout le monde meilleur. Puis il rend tout le monde constant puis ponctuel. Il dit, quand tu vois que la guette, il arrive le premier, part le dernier, saute jamais un entraînement, il est à fond de train, il encourage tout le monde. Il dit, ben, tu peux pas vraiment te traîner les pieds, puis c'est gênant, tu sais, si t'arrives en retard ou t'oublies d'y aller. Puis il dit que ce rayonnement-là de Claguette, qui est devenu le chef du gym avec le départ de Mathieu Germain vers Stéphane Larouche, ben, ça profite à des boxeurs comme Hamza Kabaz. Kabaz, lui, est un étudiant, est un gars qui. Un gars de famille, un gars qui travaille. Et c'est ça le problème. Le talent, il sort des oreilles, mais il manque un peu de constance au gymnase. Puis le fait que. Il sert de partenaire à Claguette. Il a aidé Luis Santana. Mais tout ça, ça. Ça a aidé à sa ponctualité, à le rendre plus sérieux. Pas parce que c'est pas un gars sérieux, c'est parce que des fois, il sautait des entraînements pour faire l'overtime au travail. Parce qu'il faut qu'il arrive, faut qu'il paye son loyer. C'est un boxeur indépendant. Là, il gagne tous les rondes, Hamza Kabaz. La vie est belle. Au 4e, il veut rouler les épaules. Boum! Il se fait atteindre, ramasse un compte de 8. Je pense que l'expérience a rentré qu'en boxe professionnelle, c'est pas le temps de faire du tango avec les épaules. Martine Vallière-Bisson, ma préférée. Martine, je voulais juste te dire que je t'aime et que je suis fier de toi. A remporté la victoire contre Milagro Hernandez-Gonzalez. Une fille qui, n'ayons pas peur des mots, n'avait pas d'affaires dans le même ring que notre Vallière, qui pesait probablement 140 livres, qui était... Au 3e, moi, je pensais que l'arbitre allait arrêter le combat parce que je me demandais Milagro pouvait pas revenir dans le combat puis elle se faisait atteindre assez sévèrement. Martine a fait ce qu'elle avait à faire, mais dans un contexte où elle n'a pas pris de risque outre mesure pour aller chercher un KO, mais elle a comme installé des bases pour la suite de sa carrière. Exemple, elle peut y aller à fond de train pendant 4 rondes, elle n'a pas d'inquiétude à avoir avec son cardio. Elle peut outboxer 1-2 une adversaire. Tu sais, t'es allé chercher plus des réponses au niveau du rythme, au niveau du cardio, au niveau du volume de coups qu'elle peut lancer pendant 4 rondes, puis arriver au 5e round en top shape. C'est sûr qu'au niveau de l'adversité, elle n'a pas eu grand-chose à faire défensivement. Milagro avait une grosse droite, puis elle s'en servait outrageusement. Puis à la limite, elle était quand même dangereuse avec sa droite. Martine ne pouvait pas lancer à volonté parce qu'elle ne voulait pas manger à droite en retour. C'est quand même un danger de tomber dans un slugfest. Quand tu es de loin la meilleure boxeuse technique, ce que l'adversaire veut, c'est t'amener dans une bagarre de rue. Et là, ça, c'est à toi d'être intelligent puis de juste survoler le ring en boxant. C'était boxeuse. Martine, c'est un QI de boxe très, très, très élevé. C'est une surdouée techniquement versus une fille qui, elle, avait envie de se battre comme à la sortie du loft un jeudi soir après les produits à 1$. Donc là, tu tombes pas dans un combat de rue. Tu rentres à l'intérieur, 1-2, tu sors, tu rentres 1-2, tu sors. Puis tu gères ça bien tranquille. Prends pas trop de risques. Évite la grosse main droite. Martine Vallière-Bisson livre la marchandise. Est en train de devenir une des favorites du peuple québécois. Régent Tremblay a dit qu'il aimait l'avoir boxée. Au 91-9, on a dit, Régent a dit, elle a souri tout le combat. Elle qui avait pourtant l'arbitre à la pesée. Donc, maintenant, les boxeurs indépendants, c'est toujours la même chose. C'est de s'assurer de pouvoir augmenter les défis, de ne plus faire de 4 rondes et là, d'avoir une visée pour les classements. Steven Butler battu Hector Manuel Zepeda. Et ça, c'est une affaire. Moi, je vais vous dire la vérité. J'en ai rien à cirer de vous dire ce que je pense vraiment ou pas. C'est une affaire que je trouve drôle avec la boxe. T'sais, le boxeur, il va perdre au Japon contre Ryota Murata. Peut marcher la tête très haute. Murata est un champion du monde. Après ça, il va perdre contre José Jésus de Macias. Et là, on prend un adversaire qu'on pige dans le sac d'adversaire de manière minutieuse. Hector Manuel Zepeda. Seulement 24 ans. Surnom bébé. 20 victoires, 3 défaites avant d'affronter Steven. Avait perdu 2 défaites par KO et avait seulement 6 KO sur sa fiche. Tu sais, c'était l'évidence même que ce gars-là n'avait pas de claque. Steven a perdu ses 2 derniers combats par KO. Mais le danger que je trouve, c'est que là, Steven, il fait un premier round où il s'emballe. On sait que Steven frappe très fort. Deuxième round plus technique. Fini le go au troisième. Et là, c'est parti. Et on est reparti, là. Les classements, les futurs champions du monde vont accomplir le rêve de son grand-père. Mais là, yo, il a juste battu Hector Manuel Zepeda. Pas battu Gab Rosado, là. Des marches, il en reste une trollée. Là. Il est en bas de l'escalier, puis champion du monde, c'est le 2e étage. Bon, mon allusion d'escalier, je pense que vous allez l'entendre pour un autre 1000 épisodes. Donc, je trouve que c'est un peu simple des fois en boxe. Le boxeur perd contre un champion du monde. On ramène quelqu'un minutieusement choisi. Et là, la machine est... Il est reparti! Il est reparti. L'adversaire n'était pas Échard. Là. Éric Bazignan, et là, je vais encore être négatif, le podcast le plus négatif au Canada, a battu Reynaldo Panuaga. Et là, la machine embarque. On sait que Régent Tremblay, mon parrain, est proche d'Eye of the Tiger. À l'entendre, ils vont tous aller en championnat du monde, vont tous être champions du monde. Christian Mbili, David Lemieux, Éric Bazignan, je veux dire, à un moment donné, c'est Canelo qui va les supplier de les affronter, à lire des fois, puis à entendre ce qu'on entend. Donc, Bazignan bat Reynaldo Panuaga, un type qui a raté la pesée de 10 livres, qui visait l'homme rond avec sa main arrière. L'homme rond avec sa main arrière. Moi, perso, Éric Bazignan, je reconnais que techniquement, il est fort. Je reconnais que c'est un bon top 15. Mais je vois absolument rien qui laisse présager que cet homme-là va être champion du monde. Même chose pour Steven Butler ou Steve Claggett. Si je me trompe, vous découperez l'audio puis vous me le ferez jouer 2500 fois dans les oreilles. Je vais être le premier à aimer réécouter les 2500 fois en me disant « Tant mieux, je me suis trompé, mais je vois absolument rien là-dedans. Et je vois même Eye of the Tiger qui devrait rapidement tester l'eau avec eux pour soit, tu sais, le fameux « ça passe ou ça casse », pas s'empêtrer à investir sur eux si ça marche pas, ou collecter si ça fonctionne. Mais tu sais, moi, je vois pas un autre 4 ans de développement. Là. Les deux sont arrivés, il faut que les choses se passent. Vendredi prochain, au Casino de Montréal, devant public, Alexis Barrière contre Israël Nava Lopez, un boxeur de 2-0. Si ma mémoire est bonne, ce combat-là a été refusé par la régie parce que Lopez était trop petit et on a un nouvel adversaire qui n'est pas annoncé sur BoxRec, donc je ne vous ferai pas la nomenclature de Lopez. Samuel Derry-Lajoie, 1-1, a gagné à Montréal, est allé perdre aux États-Unis. Il revient contre un Mexicain de 1-1 qui vient de faire un combat de 8 rondes. Perdu une décision serrée. Je ne sais pas trop quoi penser. Derry Lajoie, je le déteste pas. L'adversaire, on ne connaît pas trop le niveau. Potentiellement qu'on va avoir un bon combat. Derek Pomerleau fait ses débuts pro contre Daniel Beaupré. Là, à un moment donné, je ne peux pas vous raconter 35 fois la même histoire que Beaupré a vidé 3 chargeurs de fusil sa police. 4 ans de prison, un type agressif. Louis, le prince Jourdain. Étrange, lui, il vient de se battre le 5 février dernier où il a perdu une décision. Il revient 35 jours plus tard. Il y a des petits boxeurs-là qui ne veulent pas rester sur le mauvais appétit d'une défaite. Louis Jourdain va affronter Jorge Castro, un boxeur mexicain de 3-4-2. Devrait être intéressant. Jourdain, je ne dis pas Mike Tyson, là, quand il fait de la boxe. Mathieu Germain lui va affronter Guillermo Avila Godinez. Godinez, un type qui a fait, si ma mémoire est bonne, parce que là, je vois de mémoire, un type qui s'est rendu 8e contre André Klimov et qui s'est rendu 8e contre Miguel Mariaga, au 6e contre Gervonta Davis. Vraiment un gars qui a des comparables, un gars qui va venir ici pour gagner. Germain, on va rapidement savoir si l'association Clarouche fonctionne, parce que Godinez, nonobstant sa fiche, c'est pas de la petite gomme. Et si Renan Saint-Just avait à choisir un upset pour la soirée, c'est vraiment là qu'il déposerait l'upset. On va avoir un combat, les amis. Kim Clavel affronte Mariela Ribeira Vervalvide, une fille que j'arrête pas de chialer parce qu'elle a jamais battu quelqu'un avec une victoire. Kim va survoler cette fille-là. Attendez-vous à ce qu'elle reste dans son coin après 3 ou 4 rondes. Et en grande finale, le double olympien vénézuélien Gabriel Maestri va affronter Taras Selestiok, un des meilleurs boxeurs de l'histoire de l'Ukraine, olympien lui aussi, du très très haut niveau chez les 147 livres, à se mettre sous la dent en direct au Casino de Montréal. Carte correcte, carte sympathique. Les cartes de groupe Yvon Michel sont souvent faites avec un petit sourire, tout le monde est content, Yvon est installé avec petite bouteille de vin blanc dans son coin. Il fait ses petites choses. Moi, je rigole. Ça, là, je vais avoir moins de fun parce que Mathieu Boulay est en congé de paternité. Et moi, mon fun, c'est de passer des soirées avec Mathieu Boulay. Eye of the Tiger, groupe Yvon Michel. Je mets des petits crochets. Maintenant, quand je vais vous parler, je vais être obligé de rajouter un autre promoteur. Yann Pellerin avec New Era Management annonce, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, sa première carte, le 14 mai prochain, à l'Auditorium de Verdun. Flambant neuf, rénové et mis à jour par la ville de Verdun pour plus de 60 millions. L'aréna est au niveau de 2022. Alexis Barrière, Derek Pomerleau, Francis Charbonneau, probablement contre Ninja Gavrilovic dans un combat où ça va revoler en joie le vert. Alexandre Roberge, possiblement une revanche contre Tom Vautour. Je vous le dis en exclusivité, j'ai même pas. Yann m'a fait promettre de pas le dire ou l'écrire, mais sur le podcast, il n'y a rien qui tient. Le retour de Pascal Villeneuve. Villeneuve pourrait affronter Francis Lafrenière, un combat chez les amateurs. Il y avait 3 millions de personnes dans la foule. C'était incroyable. Revanche de chez les amateurs. Mais l'idéal pour Yann, ce serait de réussir à opposer Vincent Thibault à Francis Lafrenière. Lafrenière ferait son dernier combat en carrière avec les frères Grant, avec qui il a connu le plus de succès. Et Thibault sera entraîné par Stéphane Larouche. Tout le monde est d'accord. Mais là, tenez-vous bien. Avant d'aller dans le volet boxe, on commencerait avec un volet MMA. Première fois que je vous parle d'MMA, je le fais parce que c'est la même soirée. Jordan Balmire, Louis Jourdain, qu'on vient de parler, Franco, l'homme le plus fort livre pour livre au Québec, Pana, et Straninja Gavrilovic, lui, potentiellement, ce sera MMA si ça ne marche pas contre Charbonneau. Il y aurait tout ça sur la même carte à l'auditorium de Verdun le 14 mai prochain. Ne me cherchez pas, je serai à l'auditorium de Verdun. Et là, on continue dans la boxe locale. J'espère que vous n'étiez pas fan de mes interludes parce que je n'ai même pas eu moyen d'en faire aujourd'hui, cette semaine. Jean-Pascal a choqué un peu le monde entier en annonçant qu'elle a affronté Fan Long Meng le 21 mai prochain en Floride via un texte de la presse de Jean-François Théonino où Pascal explique qu'il n'était pas dopé puis qu'il peut le prouver avec des mèches de cheveux. Mais à chaque fois qu'il arrive avec sa preuve de mèche de cheveux, Théonino donne la parole à Dr. Christian Ayotte, qui est la meilleure au monde en termes d'antidopage, et a dit « ça tient pas debout, c'est tiré par les cheveux », justement, comme explication. Fait que tu finis le texte, puis lisez-le vous-même à la maison, je ne suis pas ici pour vous influencer, mais quand tu as fini de lire le texte, mais tu as l'impression que mais les excuses à Pascal sont un peu bidons parce que la docteur les débattit. Ça donne un drôle d'image. Mais Pascal annonce qu'il va affronter Fan Long Meng. Plus tard dans la soirée, Boxing Scene annonce que Fan Long Meng va affronter Sergei Kovalev. Puis le lendemain, on nous réannonce que oui, ce sera Pascal contre Fan Long Meng. Donc quand même, Greg Léon, le gérant de Pascal, assez habile pour obtenir tout de suite un combat de contre l'aspirant obligatoire de la IBF. Là, ce qui va être intéressant à suivre, c'est est-ce que la IBF est assez folle dans la tête pour mandater ce combat-là en championnat du monde intérim parce que Beterbiev n'est plus sanctionné vu qu'il est russe et dans le cadre de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ils ont suspendu les champions et les boxeurs russes des classements. Donc, imaginez la folie, là, Pascal qui redevient champion du monde contre Fan Long Meng. Mais ça, c'est pas fait, hein? Meng est quand même bon. En tout cas, Pascal trouve encore le moyen de faire parler de lui. Grand bien lui fasse. Le même soir, à Phoenix, Arizona, toujours le 21 mai, ça va vous prendre deux téléviseurs maison. David Lemieux va affronter David Benavidez pour le titre de la WBC version 160. 8 livres, donc ça va brasser ça. Benavidez est meilleur que Lemieux. Choisissez votre aspect, il est meilleur. Mais Lemieux a cette grosse claque que tu sais jamais quand elle va passer ou pas. Donc très 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 intéressant. On va être débordé dans les prochaines semaines sur la scène québécoise. Oscar Rivas, lui, n'affrontera pas Eugénie Romanov, qui lui aussi va tomber dans les sanctions de la Russie. Et là, on négocie avec un gars qui s'appelle Lucas, un Polonais classé deuxième pour le titre, probablement dans un combat qui aurait lieu au Québec en juin. Attendez-vous à ce qu'en juin, on est, mettons, Rivas en défense de titre, Kim Clavel en championnat du monde, puis qui nous patente une carte comme ça, là, avec Rivas, Clavel, puis peut-être un prêt de Pro Bellum pour compléter. Quelque chose de gros en juin au Centre Bell.
Nous, Laurent, comment ça va?
Ça va, LP, mais je veux dire aux gens à maison que Moi, je prends rien pour acquis, puis il n'y a pas une chronique que je fais à radio ou un podcast que je fais où j'essaie pas d'être à mon meilleur puis d'être intéressant.
Ben, sais-tu quoi? Ça paraît que tu ne prends pas pour acquis, Laurent, puis c'est pour ça que tu es encore là puis qu'on te fait confiance pour plein de missions sur la glace. Mais à la base, là, es-tu d'accord avec moi pour dire qu'il ne faudrait jamais prendre ça pour acquis?
Oui, quand juste, par exemple, LP, quand tu parles de glace, j'imagine que tu parles des scrums qu'on fait avec les boxeurs, tu parles des rencontres qu'on fait en conférence de presse, d'aller sur place aussi pour côtoyer les boxeurs, côtoyer les entraîneurs. C'est un peu ça le métier quand tu veux amener des informations sur que ce soit un blog ou que ce soit dans le journal. Tu sais, je côtoie Mathieu, je côtoie Régent. C'est vraiment important d'être sur place puis beaucoup d'écouter.
Et toi, Laurent, tu t'as montré des belles choses cette année, puis t'es un joueur qui pourrait être utile pour plein d'équipes avec ce que tu nous montres présentement. Mais t'as la chance de jouer pour le club dans la province où t'as grandi.
Ben, t'as raison, hein, le Boxing Town de Québec, c'est un peu comme une équipe, c'est un peu comme un club que je forme avec Vincent Tremblay, Noé Cloutier. On est allé chercher un gars qui s'appelle William sur les Twitter. T'as raison, un club, quand tu parles de ma province, bien sûr, c'est Boxing Town de Québec, donc on fait référence à la province. Tu parles de mon contrat, non, je m'en vais nulle part. Moi, je suis tatoué Boxing Town de Québec, il n'est pas question que j'aille dans un autre club. Toujours en direct d'une cuisine de Rosemont-Montréal, c'est le statut, les nouvelles de l'international. Anthony Joshua a déclaré que son nouvel entraîneur est un dénommé Angel Fernandez. Joshua qui se prépare. Donc, Angel Fernandez, pour vrai, je ne sais même pas c'est qui, fait que j'ai l'air un peu fou, là. Lui espère avoir une revanche contre Usyk si jamais la vie va lui permettre, n'est plus entraîné donc par Robert McCracken. Joshua Hernandez, son nouvel entraîneur. Angel Fernandez, désolé, je ne suis même pas capable de prononcer comme il faut. Il était déjà dans l'équipe en 2019, donc il a comme promu son assistant entraîneur. Roman Chocolatito Gonzalez a remporté contre Julio Edre César Martinez dans un combat qui, j'ai lu ce matin, il y en a qui déjà annonçaient ce combat-là comme, tenez-vous bien, combat de l'année. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Coupe d'affaires, là, c'est juste que je suis mal. Hein. Mauricio El Bronco Lara a arrêté Emilio le Kid Sanchez. Tout ça, ça s'est passé hier soir. Nouvelle internationale. Anthony Joshua, lui, est en train de dire publiquement qu'il va prendre un combat probablement en avril. Il va laisser Usyk faire la guerre et lui aimerait rester actif en avril. Ryoto Murata contre Gennady Golovkin, c'est officiel. Ça va être intéressant. Un Golovkin vieillissant, mais toujours dangereux. Un Murata un peu kamikaze, pas toujours soucieux de sa défensive, mais surdoué à l'attaque. Ça va brasser. Demetrius Andrade a signé son contrat pour affronter Zach Parker pour le titre de la WBO intérimaire à 168 livres. La semaine prochaine, Errol Spence et Yordany Ugas en combat d'unification. José Ramirez a battu de manière difficile José le Sniper Pedraza à Fresno en Californie. Ramirez qui essaye de se réinstaller pour avoir une chance chez les 140 livres. Eddie Hearn n'a pas réussi à convaincre Kell Brook d'affronter Conor Bean. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là? Demetrius Andrade a déjà annoncé que s'il gagnait et que si Benavidez battait le mieux, C'était déjà signé. Benavidez contre Andrade. Donc, on va en avoir des affaires à se mettre sous la dent. Jermall Charlo va affronter Brian Castano 2. Le premier a été super bon. Le deuxième devrait être bon le 14 mai prochain sur Showtime. Gary Antoine Junior, Russell, le jeune, aimerait qu'on dise que c'est lui le meilleur prospect au monde américain, le sauveur de la boxe américaine, et non Jaron Ennis. Ben ça fait ça dans le ring. Canelo va affronter Dimitri Bivol, et beaucoup de monde cette semaine commençait à dire que Bivol lance 73 coups en moyenne pour un homme de 175 livres. Il ne met pas de puissance dans ses coups, mais il est excessivement actif, très précis que son jab de la main gauche qui lance à outrance. Et là, tout le monde essayait de nous convaincre que Bivol était le gars le plus dangereux pour Canelo. Puis moi, je vous le dis, ça se peut que techniquement, Bivol soit trop fort, puis que Canelo le vole au juge, puis qu'on soit insulté à la fin. Là. Moi, je vois Canelo dans le trouble. Là. Et Canelo, lui, qui a annoncé que, si tout va bien, veut affronter Makabu en décembre. Pauvre Makabu, c'est vraiment, on dirait qu'il se fait niaiser un peu. Ça continue à brasser en Angleterre après que Jake Catterall ait perdu une décision contre Josh Taylor. T'sais, Tyson Fury a dit publiquement les juges ont détruit la vie de Catterall. T'sais, il aurait pu devenir une superstar, faire des millions, acheter des châteaux, devenir une vedette. Puis là, il retourne à rien parce que les juges ont été malhonnêtes. Les juges ont la vie, ont un peu le dénouement de les vies entre leurs mains. T'sais, quand ils donnent une mauvaise décision, mais au lieu de faire 250 millions en carrière, mais tu vas te rebattre pour 200 000. C'est ta faute. C'est de la faute des juges. Donc, toujours une tournée de l'international. Tyson Fury et Dillian White ont vendu 85 000 billets en 31 minutes. Et selon Eddie Hearn, il aurait pu vendre 300 ou 400 000 billets en une heure et demie s'il y avait eu 300 ou 400 000 billets à vendre. Vraiment, c'est la folie autour de Tyson Fury. L'amour que les Anglais ont pour Tyson Fury, c'est ridicule. Ryan Garcia contre Josh Cambozo Jr. en fin d'année. Peu importe ce qui arrive, que Cambozo se batte Lomachenko ou que le combat n'ait pas lieu contre Lomachenko, l'idée, c'est de tout ramener ça à Ryan Garcia à la fin de l'année, selon Oscar De La Hoya, qui lui s'accroche après Garcia pour se remplir les poches. N'ayons pas peur des mots. Donc, ça fait pas mal le tour de cette tournée de l'international. Je vous ai déjà parlé des combats qu'on attend. Sur la scène québécoise, on a une carte de groupe Yvon Michel le 11 mars prochain. Puis j'ai hâte, on va dire la vérité, j'ai hâte. Ça fait du bien de voir des gens en vrai. Parce que moi, souvent, ce que je fais, c'est que je ne reste pas sur ma chaise. Je prends un bain de foule et j'embrasse des femmes et je salue leurs conjoints toute la soirée quand je suis dans un gala comme ça. Donc, on va recommencer ça avec groupe Yvon Michel. On est toujours bien accueillis par Claire Couturier, qui l'autre fois m'a accueilli avec un air bête terrible, mais en 5 minutes, elle était revenue de bonne humeur. C'est parce que je m'étais pointé 1 heure en avance au gala. Alors, la semaine prochaine, en collaboration avec Marie-Ève Albert du podcast 120 secondes, Jessica Yolanda Pop va affronter Jessica Neri Plata. On surveille ça parce que Jessica Yolanda Pop et Kim Clavel, un jour, pourraient s'affronter. Là. C'est des choses qui ne sont pas impossibles quand tu regardes les classements et le fait qu'elle a quelque chose que Kim veut. La ceinture, une des ceintures, parce que Kim, comme elle m'a dit, je pars à la collection des ceintures. Beau temps pour collectionner des ceintures. La semaine prochaine, à travers le monde, Jezreel Corrales, qui flirte avec les classements et les championnats, va affronter au Panama le boxeur invaincu Miguel Madeuno. C'est toute une histoire que je viens de vous dire là. Sinon, on fait le tour, j'ai pris des notes. Jack Hughes va affronter Paul Robert en Angleterre. Jack Hughes, J'ai déjà vu boxer, c'est pour ça que je les prends en note. Lee Wood, qui va affronter Michael Conlan, l'Irlandais qui est un méga vendeur. Miguel Vasquez, qu'on a vu ici souvent au Québec, va affronter Gary Cooley. Vasquez avait, je pense, avait surpris avait surpris Ghislain Madouma. Ensuite, avait été défait par Artem Oganesian. Là, va affronter Gary Cooley, un prospect de 13-0. J'adore ces prospects-là parce qu'ils en sortent tellement en Angleterre qu'à un moment donné, il y a tout le temps un ou deux qui ne sont pas au niveau et qui se font surprendre. Terry Harper, commandité par 120 secondes, va affronter Yamila Belen Habeladada. Terry Harper, une vedette. Sandy Ryan, future vedette en devenir. Deux combats féminins de qualité sur la même carte. De quoi mettre un sourire dans la face à Marie-Ève Albert de 120 secondes. Va affronter Erika Annabella Farias. Marie-Ève était là, elle dirait. C'est pas typique, ça, pour quelqu'un de 3-0 d'affronter une aspirante mondiale d'aussi haut niveau. Donc, on n'y va pas de main morte. Sinon, on se déplace. On se déplace où la semaine prochaine? J'ai de la misère, là. Je suis en train de fouiller mes feuilles, puis j'ai de la misère à trouver le gros combat que je cherchais. Et il n'y en a pas. Donc, la semaine prochaine, c'est assez tranquille. Il y a une carte à Toronto le 13 mars qu'on va vous parler la semaine prochaine. Je vous le dis, à travers le monde, ils signent. À travers le Canada, ils ont vraiment signé des méga prospects. C'est impressionnant. Sur la carte à Toronto, il y a Pierre Dibombe qui est rendu avec eux. Un Français de 20-0. Brian Acosta, qui est signé à Toronto aussi, qui est 15-0. Nick Fantozzi, qui est 10-0. Je vous le dis, le Canada est en train de menacer le Québec tranquillement. Ils font juste s'installer un petit peu, mais pourraient nous déclasser. Et ça commence à me faire peur. Marie Spencer, qui a affronté ce qu'il affronte. Ariane Fortin, avec Eye of the Tiger. Et ça, c'est curieux. Parce que Spencer est tout même dans la même catégorie que Marie-Pierre Roule. Elle annonce clairement qu'elle déteste à 154 livres. Les offres sont là, mais c'est Marie-Ève Ducœur qui a une ceinture à 154 livres. Mais quand tu as été championne du monde amateur, que tu as affronté 7 fois Ariane Fortin, tu n'as aucun complexe face à Marie-Pierre Roule puis Marie-Ève Ducœur. Mais le problème, c'est que là, elle est signée chez Eye of the Tiger, puis les autres sont isolés chez Groupe Yvon Michel. Mais la championne des 147 livres, McCaskill, aimerait affronter la gagnante de Serrano Taylor à 140, probablement abandonner ses titres. Je vous fais une prédiction, OK? Un jour, plus tôt que tard, Marie Spencer va être aspirante obligatoire à Marie-Ève Ducœur. Ou Marie Spencer et Marie-Pierre Roule vont être en appel d'offres pour un combat de championnat du monde. Et là, un matin, à la WBC, il va arriver deux personnes. Ils vont être dans le même avion. Ils se parleront pas du voyage. Ils se regarderont pas. Ils vont arriver là, dans le chapeau de l'appel d'offres. D'un côté, Yvon Michel, backé par Pro Bellum. De l'autre côté, Camille Estéphane, backé par sa fortune personnelle. Et là, ils vont mettre une enveloppe, chacun, leur meilleure offre. Et un des deux va gagner l'appel d'offres. Possiblement Camille Estéphane, qui a les poches très creuses. Et là, il va organiser Marie-Ève Ducœur contre Marie Spencer en championnat du monde à Place Belle. Puis Marie-Ève Ducœur, par la force des choses, parce que son promoteur a perdu l'appel d'offres, elle va être prise pour se battre sur une carte d'Eye of the Tiger. Fait qu'eux, ils vont faire, tu sais, en signant le contrat, elle va être comme être contrainte à faire plein de promos. Fait que là, c'est Marie-Ève Ducœur qui va faire la promo d'un gala d'Eye of the Tiger parce que Camille a gagné l'appel d'offres et le privilège de tout ça. Il va pouvoir choisir la date, l'endroit. Et là, on va avoir un combat historique entre Spencer puis Marie-Ève Ducœur. Oubliez ça. C'est inévitable, vous allez me dire. Mais là, Laurent, t'exagères. Elle n'est pas au niveau de Marie-Ève Ducœur. Elle est juste 3-0. Est-ce que Auglédis Suarez était au niveau de Marie-Ève Ducœur? Est-ce que la Cubaine, qui était aveugle d'un œil, était au niveau de Marie-Ève Ducœur? Est-ce que Cynthia Lozano, qui avait de la misère à boxer, puis elle lançait ses coups, puis elle finissait dans les estrades, tellement qu'elle était en déséquilibre, avait d'affaires contre Marie-Ève Dicker. Marie Spencer est une triple championne du monde amateur. 2 ou 3 victoires, puis la IBF vont la placer où Camille va le demander dans le classement. Ils ne pourront même pas s'obstiner, tellement que les choses vont être évidentes que cette fille-là est meilleure que toutes les aspirantes à 154 livres. Et là, on va se ramasser avec une guerre incroyable. Une fille qui vient de l'Ontario, qui habite maintenant à Saint-Henri, qui parle juste anglais, contre une fille de Saint-Eustache, qui parle français, gauchère contre droitière. 2 carrières, une qui a une carrière amateur incroyable, l'autre qui n'a pas de carrière amateur vraiment, mais a gagné les ringside aux États-Unis, mais c'est surtout la carrière professionnelle qui prévaut dans son cas. Je vous le dis, commencez à saliver, parce que ce trio-là, au pire, ce sera contre Marie-Pierre Roule, mais ce triangle-là n'a pas fini de faire de la fumée au Québec. C'était ton podcast numéro... Bon, je ne sais plus, 116 ou 117, vous devrez regarder. Et je vous aime tous personnellement.
Dans 85, c'est moi, Tarzan le bottine Tyler, qui va rire de vous autres, les Québécois, le monde de la ville de Québec, parce que mon champion, c'est Kate Tonga. Il va vous le battre. Il va le battre comme un tapis. Votre équipe mortelle, votre petit Québécois, votre petit gars de la ville de Québec que vous aimez tant.